Sur PFM, vous allez retrouver une émission avec des étudiants étrangers effectuée dans le cadre d'un atelier radio en collaboration avec l'association CiviWeb qui a pour but de promouvoir l'interculturalité et la mixité sociale à l'Université d'Artois et de favoriser l'intégration des étudiants étrangers dans la vie universitaire et dans la vie quotidienne en France. Aujourd'hui, les étudiants discuteront des thèmes suivants. Comment se passe l'accueil des étrangers en France et la place de la maman dans les différents pays?
Bienvenue à la nouvelle émission sur Radio PFM sur le 99.9. Bonjour à tous, je m'appelle Nga, je viens du Vietnam et ma jolie camarade Mariam vient d'Afghanistan. Nous sommes les étudiants à l'Université d'Artois, donc notre sujet d'aujourd'hui porte sur l'accueil d'étudiants étrangers en France.
Quand êtes-vous arrivé en France pour vos études?
Je suis arrivé en septembre 2017.
Pour moi, je suis là juste, ça fait que 4 mois, 17 jours, 3 heures.
Pour moi, c'est pas longtemps. Je suis là depuis 2 mois environ.
Pour moi, je suis en France depuis 2015.
Comment vous êtes-vous inscrit à la université?
J'inscris en ligne. Il y a un site ou un système, on l'appelle le Campus France Chine. Je crois qu'il y a ça aussi en Algérie, je crois. Il faut postuler notre document sur ce site et puis il y a des personnes qui vont vérifier notre document. Ils vont voir est-ce que nous sommes s'adaptés à leur demande.
Nous les Marocains, on passe à travers des procédures grâce au Campus France Maroc. Et franchement, cette plateforme, cette via-là, je la trouve très efficace parce que vraiment, il simplifie les procédures. Elle a évité pas mal des efforts pour les étudiants, pour les étrangers, pour vraiment atteindre leur objectif de venir à étudier en France. Parce que en place de, par exemple, cette plateforme-là n'existait pas, on sera vraiment obligé de contacter chaque université par une. Ça sera vraiment très fatigant, ça prendra du temps, mais comme ça, à travers le Campus France, tu peux vraiment remplir un formulaire online, tu peux soumettre tous tes documents, tes diplômes, tes expériences. Il y a une comité ou bien une équipe qui va vraiment étudier ton dossier. Ils vont te renseigner, ils vont t'orienter. En cas de manque d'un document ou quelque chose, ils vont te contacter. Ils s'occupent vraiment de prendre un rendez-vous pour toi. Il y a pas mal des choix pour prendre un rendez-vous par rapport à ta disponibilité. Il fallait juste se déplacer au moment et le jour précis. Après, ça dépend de ton dossier, de tes qualités. Tu seras accepté ou pas de la part des universités. Et après l'acceptation, tu passes directement, tu finis avec le Campus France. Ils te donnent l'acceptation, ils te donnent le dossier que tu souhaitais. Et avec ce dossier-là, tu veux le soumettre avec ton dossier de visa. Et voilà, tu prendras ton visa directement à la France et tu commences.
J'ai inscrit mon nom sur ligne. Comme Yvan dit, il y a le Campus France, l'Institut français à Erbil. Il y a une personne qui a aidé les étudiants pour étudier en France. Et je lui ai donné mes documents. Et je lui ai donné, il a fait toutes les choses. Il a fait un rendez-vous pour remettre le visa. C'était en ligne pour moi, comme les autres.
Ok, merci. Avez-vous passé des tests de langue dans votre pays avant votre départ?
Oui, je crois que c'est obligatoire d'avoir un diplôme de notre de la langue française, soit c'est DCF, test du français, ou TELF, ou TELF. Oui, je crois que c'est obligatoire. Et aussi, il y a une demande de notre niveau. Okay. Je crois au moins c'est B2 pour entrer un décret à master.
Mm. Ok, merci.
Pour moi, franchement, je n'ai pas passé un test chez nous, mais si en France, j'ai pris la langue française, centre formation, c'est B2, FB2I. Mm-hmm. Puis j'ai passé certains 3 ou 4 tests pour les niveaux de langue. Mm-hmm. La première, je l'ai fait à Delft, Lille, pour obtenir okay. le A2. Mm-hmm. Puis j'ai fait un test B1.
Ok, merci.
En Erbil, j'ai fait le TCF. Pour passer en France, c'est le niveau, c'était BA pour avoir l'acceptation de l'université.
D'après mon expérience, tant que je fais conformation en langue étrangère appliquée, j'étais obligé vraiment de montrer mes capacités au niveau de langue. Et je suis passé par un examen de DELF B2. Et après un examen de, c'était pour la langue anglaise. Et après un examen pour une langue espagnole. Et c'est pour cela que je pense que mon dossier a été pris. J'étais parmi les gens sélectionnés. Ça m'a fait vraiment plaisir.
Y a-t-il des organisations ou des institutions qui vous ont aidé dans votre pays?
Oui, je crois qu'il y a, on l'appelle plutôt une agence pour aider des étudiants étudiants en étranger.
C'est une agence privée, non?
Oui, c'est ça. Mais mm-hmm. oui, il faut payer.
Chez nous, au Maroc, il y a l'Institut français. Parce que si vous savez, il y a un Institut français dans chaque pays du monde. Et vraiment, dans ce centre-là, ils ont mis une personne... une responsable ou bien un responsable juste pour orienter tous les étudiants qui veulent partir à étudier en France. Tu prends un rendez-vous pour juste avoir une orientation, demander des questions, comment soumettre le dossier, et les critères et tout ça. Et ça vraiment aide les étudiants qui sont intéressés.
Pour moi,
et c'est gratuit, pardon. C'est totalement gratuit oh oui, c'est parce, que c'est, oh oui. parce que c'est de l'État français. Et voilà.
Pour moi, c'est pas de chez nous ou de mon pays, mais franchement, c'est en France. Il y a une école qui s'appelle Deuxième Chance. C'est une école pour les gens. Il m'a aidé beaucoup pour inscrire à l'université.
Gratuit ou bien privé?
Non, public c'est gratuit. franchement, j'ai dit merci beaucoup, Barou, parce qu'on m'a aidé beaucoup de développement à mon niveau, de motivation, d'expérience aussi en France. Même aider pour rentrer à l'université. Je dis encore merci beaucoup.
Chez nous, il y a l'Institut français. J'ai eu le contact avec l'Institut français aussi maintenant. J'ai le contact avec l'Institut. C'est par l'Institut français à l'Irak et c'est gratuit pour nous, le contact et l'inscription.
Combien avez-vous payé pour votre inscription à l'université?
Je disais à peu près 417 €. Ce sont des frais où est inclus les frais ou bien les frais de la sécurité sociale, ainsi que les services de la salle du sport, la bibliothèque et ainsi de suite. Je ne sais pas si vous avez le même cas ou bien ça diffère. En fin de compte, ça change entre une formation oui, ou bien ça. Entre licence et master. C'est parce ça. Que les masters, ils payent assez plus, non?
Oui, même la formation au DEUF.
Voilà, les deux, c'est différent, je pense.
Oui, c'est ça. Oui.
Pour moi, j'ai payé seulement 5 €. Parce que...
5 €?
C'est beaucoup. parce que j'essaie de passer par le Campus France. Et le Campus France qui va payer, c'était, je pense, 2 700 €. Et donc, j'ai payé seulement 5 €.
C'est une bourse ou pas?
Oui, c'est bourse.
Maintenant, avez-vous une assurance maladie et une mutuelle Quelqu'un vous a-t-il conseillé pour le choisir?
Pour moi, oui. J'ai choisi le Smino. J'ai choisi, c'est le monsieur Youssef qui m'a conseillé pour choisir ça. Il dit que c'est très bien pour l'étudiant et c'est gratuit. Il peut payer un peu et c'est gratuit dans votre temps pour, en France.
C'est une assurance à 100%.
Ah oui. Moi, je disais qu'il y a, pour tous les étudiants qui sont intéressés, en gros, il y a deux sécurités sociales. Oui. Il y a l'MDA, il y a les SMENU. Et vraiment, les SMENU sont des gens très professionnels. Je le recommande. Vraiment, ils traitent les dossiers avec une rapidité. Ils te remboursent après quelques jours. Si tu te présentes au niveau du centre, ils vont t'accueillir. Ils vont te donner le temps pour s'orienter. Et c'est ça. C'est bien.
OK. Êtes-vous boursier? De quel type de bourse bénéficiez-vous?
Non, je n'ai pas de bourse.
Moi aussi, je n'ai pas de bourse.
Je pense que seulement moi qui sais bourser. Oui. Mon bourse, c'est pour des flip et pour master aussi.
Ouais. C'est de quel type?
Pour étudier.
D'accord.
Excusez-moi juste de vraiment remercier ma famille, c'est ma bourse, parce que vraiment on dépend ici de leur financement, de leur sacrifice. Je voulais vraiment remercier ma mère, parce qu'il fait tous ses efforts pour maintenant financer mes études et m'aider vraiment à avoir un futur. Voilà, merci maman.
Merci beaucoup
pour participer avec nous.
Au revoir. Bonne journée.
Vous écoutez une émission réalisée par des étudiants étrangers, effectuée dans le cadre d'un atelier radio en collaboration avec l'association CiviWeb et l'Université d'Artois. Thank you.
Bonjour tout le monde. Vous êtes sur PFM 99.9. Aujourd'hui, on va parler donc du thème de la maman. Serge Ziller dit dans l'un de ses œuvres qu'il n'y a pas d'âge ni un jour bien précis pour dire « Maman, je t'aime. Maman, je t'aime. Je fais ça juste pour toi. » Donc, sans introduction et à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes qui correspond au 8 mars, moi, Mohamed et ma camarade Iwan avons le plaisir d'accueillir avec nous Mouazafer de l'Irak, Ahmed de la Libye, Amatar de Soudan et avec nous Ayatollah du Maroc, mon voisin. Donc, ce sont des étudiants de l'Université d'Artois de différentes nationalités qui vont nous parler donc du thème de la maman. Ma première question pour vous, c'est une question qui est souvent posée. Préférez-vous votre maman ou bien votre père? Et bien sûr, avec un pourquoi.
Moi, je disais ma mère parce que mon père, il était, d'après mon expérience, mon père, il était vraiment tout le temps en voyage par rapport à son travail. Mais ça n'empêche pas vraiment à dire que lui aussi, même s'il est maintenant décédé, il est mort maintenant, j'apprécie son effort pour vraiment nous assurer une vie et un futur. Je suis là maintenant grâce à lui et aussi à ma mère parce qu'elle s'occupe maintenant de faire le rôle du père et du mère. C'est pour cela.
Pour moi, je préfère... La mère, on n'oublie pas le père parce que lui, il travaille pour nous, pour bien vivre.
Aïe, aïe, aïe.
Mais même le placement de la mère, c'est tout parce que toujours elle est à côté de nous, même du temps, on est malade, on a besoin de parler, de pleurer, toujours la mère à côté de nous.
C'est la personne en laquelle on confie nos histoires d'amour,
nos
soucis. Donc.
C'est très difficile question, mais... À la fin, je préfère maman. Je pense que c'est pas pour
tout. On partage.
Même la vie.
Et on n'oublie pas le rôle du père parce qu'il travaille pour nous, il assure notre futur. Mais le maman, c'est plus proche pour nous et elle nous donne l'émotion, elle nous grandit. Donc, il y a le lien très spécial avec nous et notre maman.
Moi, je dirais juste pour ajouter à l'intervention de mon collègue Ahmed que tout le monde, il va s'oublier de nous, sauf la maman.
Oui.
Un jour.
C'est vrai.
Bah oui.
Soyez vraiment sûr de ça.
Bon, la deuxième question. Pour vous, qu'est-ce que ça veut dire maman? La définition de maman?
En trois mots, je vous dis, j'ai pas trouvé la définition de maman.
Personnellement, c'est la vie. Ouais. La maman, c'est la vie.
J'allais dire ça. C'est elle qui nous donne vie et c'est elle qui nous accompagne pendant toute sa vie.
Dans le moment dur, dans le bon moment, dans tout le.
Ah ben, je profite de cette occasion pour saluer toutes les mamans.
Ouais,
de toute la terre.
Vous êtes très sensibles, les gars.
Ah oui.
Moi, je dirais la maman, ça sera la vie, le paradis, l'amour, l'affection, la nostalgie, les émotions, le partage.
Tu.
C'est tout.
Donc, quel est le statut de votre mère dans votre famille? Est-ce que votre mère travaille encore maintenant?
Ma mère, non. Elle travaille pas. Elle est la femme de maison. Elle travaille pas.
D'accord.
Pour moi aussi, ma mère ne travaille pas. Mais elle fait le travail de maison.
Pour moi aussi, bien.
Ma mère, elle a travaillé juste pour une certaine période quand on avait des difficultés économiques. Mais après ça, grâce à Dieu, ça a été réglé. Il a arrêté de travailler. Maintenant, on est bien. C'est bon.
D'accord. Mais c'est un peu différent parce que ma maman travaille encore maintenant.
Ouais.
Oui.
Tout dépend des besoins de la famille, je crois, parce que ma mère, elle travaille toujours pour notre bonheur, pour qu'on fasse des études, pour qu'on soit donc quelque chose dans nos vies. Ce qui fait de la maman vraiment, ce qui donne à la maman vraiment un statut sacré, pour moi, c'est le fait qu'elle assure un travail, qu'elle contribue donc à la satisfaction des besoins de la famille. Aussi, elle est toujours présente pour ses enfants et donc elle est toujours présente pour s'occuper de son foyer.
Tout à fait.
Ce que j'aime chez la maman, c'est ce courage-là donc, de garder les deux, son travail, d'accord, et son foyer en bon état. Donc,
Tout à fait, parce que d'après mon expérience, ma mère, elle fait maintenant le rôle du père et de la mère. Et comme tu as vraiment mentionné, ça dépend de la situation économique de la famille. Puisque ma mère, elle était responsable de nous. Et pendant une certaine période qui était difficile, elle a été vraiment obligée de sortir et de travailler, de nous assurer des moyens. Et voilà, c'est pour cela que je la remercie trop.
Notre prochaine question, c'est que comment vous trouvez la question de la répartition du travail domestique paternel? Et je dis paternel. Si je peux expliquer, est-ce qu'il y a une aide de la part du papa dans les travaux domestiques au foyer? Est-ce que les papas aident la maman? Donc,
sont bien partagés la vie domestique, le travail domestique. Ils sont bien partagés, ils sont bien.
Oui, pour moi, oui, le papa il partage avec le maman.
Non, surtout parce que il y a certains clichés, il y a certains stéréotypes par des gens là que les papas, par exemple, comme étant donc des ressortissants nord-africains. Il y a une sorte de stéréotype qui voit donc les papas qui font rien à la maison, c'est juste qu'ils travaillent hors la maison pour satisfaire aux besoins financiers de la famille. Mais en fait, moi, je voulais donc juste intervenir sur ça. En ce qui concerne mon papa, que je salue beaucoup, il est toujours présent pour notre famille, que ce soit à l'extérieur ou bien à l'intérieur. Donc, il contribue donc fortement au ménage du foyer. Donc, il participe aussi à l'éducation de mes sœurs qui sont maintenant petites, qui sont donc à l'école. Il est toujours présent. Hein. Il partage le tout avec la maman au foyer. Pour vous, Ayatella?
Oui, moi je voulais dire, juste pour ajouter à ton intervention, c'est que ça dépend aussi de la famille. Quand il y a des membres familiales, comme par exemple des sœurs et des filles, par exemple, d'après mon expérience, j'ai deux sœurs qui sont assez âgées et vraiment, elles donnent un coup de main à ma mère. Et pour nous, soit pour moi ou bien mon petit frère, on se sent qu'on n'est pas obligé de vraiment aider, mais quand même on aide, on fait un effort. Ils partagent les efforts ou bien ils partagent les tâches domestiques avec la mère et ça lui aide un peu.
Mozafar?
Chez nous, il aide ma maman, mais ça dépend. Quelquefois parce que on est beaucoup dans la maison, j'ai les frères, les sœurs, donc on a partagé les choses pour récupérer.
La prochaine question, ça sera... Certains féministes donc, demandent l'allongement du congé parental paternel. Qu'est-ce que vous en pensez?
Moi c'est ma première fois que j'écoute de ce concept-là. Un congé paternel, je le trouve vraiment juste. Parce que si vraiment on va devenir une société assez civilisée, une société de partage, une société win-win, gagnant-gagnant, et vraiment qu'on ne soit pas vraiment une société machiste, il fallait vraiment donner une période ou bien un congé pour le père, pour qu'il s'occupe lui aussi des enfants. Ça ne sera pas toujours une mission, bien une obligation pour la femme. Vous voyez ? Et voilà.
Ahmed, premièrement, est-ce que vous êtes d'accord le congé parental paternel ou bien vous êtes contre ? Si vous êtes contre, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Si vous êtes d'accord aussi, pourquoi ?
Je pense parce que chez nous, hein, dans les sociétés maghrébines ou bien les sociétés arabes, maintenant, il n'existe pas. Il n'est pas encore présent ce concept-là. Voilà. Ouais, ils n'ont pas encore proposé ce concept-là pour l'adapter, mais un jour ça arrivera, bien sûr.
C'est ça, il n'est pas encore présenté. C'est pour ça, c'est la première fois que je l'écoute.
Donc vous trouvez ça un peu étrange
d'accorder
un congé
Par rapport, si je vous donne mon avis, je suis avec cette idée, parce que c'est bien pour avoir de passer un bon moment avec les enfants. Ouais. De partager un bon moment, de faire des voyages, de rester avec les enfants pour de parler, discuter avec les enfants parce qu'ils ont besoin de leurs parents,
ouais.
De parler, de partager, de dire. C'est sans loi, toujours, par exemple, si les parents travaillent ou les enfants toujours passer leur temps tout seul, ça va être dur pour le futur, pour le venir.
Même en France, je pense que c'est juste nouveau, n'est-ce pas? Ça vient d'être discuté, d'être inventé, ce concept-là, je pense.
Aussi, moi, je suis d'accord pour ce congé-là, parce que aussi, les enfants, ils ont besoin de la présence de leur papa dans leur vie. Ils n'ont pas encore besoin seulement de la maman. Mais je crois que chacun joue son rôle dans l'éducation des enfants.
Ouais.
Je suis tout à fait d'accord avec. Yoann, en fait, j'aimerais bien que tu répondes sur la septième question en ce qui concerne le congé parental paternel. Qu'est-ce que vous pensez?
Je crois qu'on a besoin d'allonger le congé parental, surtout le congé paternel, parce que le maman, il s'occupe en fait de responsabilités, le travail et le foyer. Pendant ce temps, c'est une période dure pour les femmes. S'ils s'occupent les enfants seulement, je crois qu'ils prennent beaucoup des stress, soit physique, soit mental. Les hommes et le mari et le père ont la responsable de partager avec notre maman. Oui.
Guyane, est-ce que ça existe, ce congé-là, en Chine? Est-ce que vous parlez de ce thème-là, de ce sujet?
Non, il pas n'existe encore. Pas, oui.
C'est une tendance, je pense, que ça arrivera peu
oui,
à peu.
Oui, c'est ça, oui.
Voilà, c'est une question de temps.
La dernière question, est-ce que vous vous souvenez de la date de la naissance de votre mère?
Apparemment, je pense... Tu
penses?
Je pense, je ne me suis pas trompé, je rappelle l'année.
C'est le 14 avril 1965. Ça, c'est la date de naissance de ma mère.
Ça sera le 16 janvier.
Très bien.
1960. Voilà.
Ah, waouh, c'est bien. Matar, la date de naissance de ta maman?
4 mars.
Le 4 mars?
Oui. 1972.
1972.
Oui.
D'accord, c'est très bien. Mottafar.
En juillet 1965.
Pour Yoann.
Je ne sais pas.
En fait, merci beaucoup d'être avec nous sur PFM 99.9, une radio libre et sans publicité. Au revoir.
Merci, bonne journée.
Merci.
Au revoir.
C'était une émission des étudiants étrangers effectuée dans le cadre d'un atelier radio en collaboration avec l'association CBWeb et l'université d'Artois.